Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Nina Joliet, le nouveau maire du Mont-d'Or. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation après votre élection ou votre victoire le 22 mars dernier. Après 6 années dans l'opposition, comment est-ce que vous vous sentez dans vos nouveaux habits de maire du Mont-d'Or et comment se passe votre installation ?
Je me sens toujours aussi déterminée avec une équipe qui l'est toute autant que moi. On pensait manquer un petit peu d'énergie après cette campagne qui a été longue, je dois dire. Mais en fait, c'est très stimulant et il y a plein de défis à relever. Donc, on est en forme et voilà, il y a des choses à changer. C'est normal, hein, après tant d'années avec une certaine méthode. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps pour qu'on trouve nos marques.
Vous vous donnez combien de temps pour que les choses soient vraiment, pour avoir vraiment pris nos marques et pour que les choses soient en place ?
Comme on l'avait annoncé dans notre programme, on se laisse 100 jours. 100 jours au cours desquels on doit mettre en place déjà 12 mesures, mais c'est 12 mesures très précises. Donc on travaille sur ces 12 actions. Et parallèlement, ça nous laisse le temps d'apprendre à connaître le fonctionnement de la mairie, d'aller à la rencontre de tous les services, de tous les agents, essayer de bien comprendre les rouages, les circuits, et puis se présenter aussi, parce que c'est un grand changement pour nous, pour les Mont-d'Oriens, mais c'est aussi un grand changement pour l'administration. Et pour que les choses avancent, il faut qu'il y ait un partage et une adhésion de l'administration.
Quand il y a une alternance comme ça, vous avez une nouvelle équipe également, ça y est, vous l'aviez identifié avant ?
Non, je n'ai pas encore d'équipe. C'est ce que je vous dis, dans l'administration, les choses sont longues et on respecte les règles de la fonction publique. Donc, il y a des recrutements en cours, des AVP. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique dans l'administration. Voilà, on n'est pas dans le secteur privé, donc on fait les choses step by step.
Pour revenir rapidement sur la campagne municipale, vous avez battu la maire sortante Elisabeth Rivière du Rassemblement. On sait qu'à Dabea, et ça a été dit, l'union a été faite entre tous les partis partisans de la France et notamment entre vos partis. C'était impossible au Mont-d'Or ?
Je pense qu'il y a eu une phase où ça aurait pu être possible pendant les exactions. Au moment où je l'ai soutenue, quand elle était suppléante de Alcide Ponga pour les législatives 2024, dans un contexte voilà, qui était terrible, encore plus au Mont d'Or, où oui, il y avait une possibilité. Mais quand elle a été, quand elle est venue remplacer Eddy Le Courrieux, il n'y a pas eu en fait de main tendue pour travailler avec nous, avec moi, puis avec les autres de l'opposition. Elle aurait pu nous proposer de travailler tout de suite avec elle dans la perspective des prochaines municipales, de faire quelque chose ensemble. Donc ça n'a pas été le cas. Ça a même été une phase presque encore plus difficile que celle avec Eddy Le Courrieux. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait plus de possibilités. Et puis après, je l'ai bien vu pendant la campagne aussi, il y a une vraie divergence de lignes. Et les Mont-d'Oriens l'ont constaté, le choix, il était très clair en fait, entre sa liste et la mienne. On ne pouvait pas dire que les deux programmes se ressemblaient, on ne pouvait pas dire que les valeurs étaient les mêmes. Donc en fait, non, ça n'aurait pas été possible qu'on fasse campagne ensemble parce qu'on n'a pas du tout défendu les mêmes choses et de la même façon.
Et alors, est-ce que ça laisse des traces ? Est-ce que, quelle est l'ambiance dans les conseils municipaux ? Vous en avez eu quelques-uns déjà. Et quelle place est-ce que vous pensez laisser à votre opposition ? Vous qui savez ce que c'est qu'être dans l'opposition.
Là, de toute façon, on est parti pour 7 ans de mandat. Donc on ne va pas se faire la guerre pendant 7 ans. Ça y est, la période de campagne est passée. Il faut que voilà, chacun accepte le résultat du vote. Donc nous, bien sûr, qu'on a ouvert la porte. On l'a ouvert aussi aux indépendantistes, puisqu'on leur a proposé de siéger au sein du Centre communal d'action sociale, qui est un organe important de la commune, parce que c'est là que se décident toutes les aides sociales. Et ils n'ont pas voulu. Voilà, ils n'ont pas voulu rejoindre notre liste. Comme ils sont très peu d'élus, en fait, si on respecte la loi, il n'y avait pas de siège pour eux. Donc on a fait vraiment un geste, ils ne sont pas venus. Après, on a fait aussi d'autres ouvertures, hein, sur la Caisse des écoles, sur la SEM Mont-d'Or Environnement, on a laissé des places. Dans les commissions, ils sont représentés. On a même d'ailleurs ouvert les commissions à tous les élus, et non plus seulement à ceux qui ont voix délibérative, ceux qui peuvent voter. Avant, on n'avait pas le droit de venir en commission. Quand on ne faisait pas partie de la commission, là, tout le monde peut venir poser ses questions, débattre. Après, seuls ceux qui ont été désignés peuvent voter. Voilà, donc on est ouvert au débat. On a proposé, là on termine un cycle de visites de toutes nos directions. Ces visites, on les a proposées aussi à l'opposition. Bon, les élus ne sont pas venus, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, nous, voilà, la porte, elle est ouverte.
Vous ne l'auriez pas fait à leur place?
Alors si nous, à l'époque, on aurait aimé. On l'a demandé dès qu'on a été élus, on aurait aimé visiter les directions. Bon, s'ils ne veulent pas les visiter avec nous, ils iront les visiter sans nous. Je vois pas d'inconvénient. Ils ont droit, comme tout le monde, d'être informés de ce qui se fait dans les directions.
Alors, vous êtes maire d'une commune de l'agglo, une grosse commune. Vous êtes élu à la province sud, vous êtes élu au congrès. Ça fait beaucoup quand même. Vous avez le temps de tout faire. Vous allez avoir le temps de vous consacrer à votre commune pleinement?
Alors, ceux qui me connaissent un petit peu connaissent ma capacité de travail et savent que je ne dors pas beaucoup la nuit. C'est un atout certain, hein, d'avoir un pied à la province et au congrès. Ce matin, j'étais encore en assemblée de province. Et pour défendre la commune, c'est quand même un endroit idéal. C'est là que se trouvent les financements. Au congrès, c'est là que se décident les lois. Et c'est vrai que pour défendre ses administrés, ne pas être dans ces instances-là, c'est se priver aussi de financement, puis de cohérence aussi avec les politiques qui sont votées à l'échelle du territoire. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on a voté la délibération d'utilisation des financements de l'État dans le cadre de l'amélioration de nos écoles. Eh bien, je suis intervenue pour dire que la commune du Mont-d'Or voulait, elle aussi, être en partenariat sur cette action. Et on va avoir l'école de Saint-Michel, par exemple, qui va pouvoir bénéficier de ce partenariat avec la province et l'État. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça nous permet vraiment d'être plus efficace pour les Mont-d'Oriens.
Le Mont-d'Or, parlons-en quand même. C'est aujourd'hui la quatrième commune de Nouvelle-Calédonie, 25 000 habitants au dernier recensement. Vous avez déploré ce déclin, puisque pendant longtemps, c'était la deuxième commune de Nouvelle-Calédonie. Comment faire pour redonner de l'attractivité à la commune, avec tous les problèmes qu'on connaît et dont on parle, qui font l'actualité générale de la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs?
Ça passe d'abord par la sécurité. Ça passe d'abord par la sécurité. Les gens quittent le Mont-d'Or parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour diverses raisons. Il y a beaucoup de cambriolages, il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de petites délinquances qui mettent une mauvaise ambiance et qui donnent une mauvaise image de la commune. Et puis après, il y a toujours notre problème de la route qui est encore encadrée par les gendarmes, etc. Donc il faut d'abord resécuriser, faire absolument baisser la délinquance. Et c'est ça qui fera, je pense, revenir les gens, qui leur redonnera confiance. Après, il y a le volet de l'emploi. Mais voilà, là, dans les trois premières semaines, moi, je me suis d'abord attaquée à la baisse de la délinquance. Donc
vous êtes attaquée comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déjà pris des initiatives dans ce domaine?
La semaine prochaine, on lance le recrutement de 5 policiers municipaux, ce qui est beaucoup, puisqu'on a un effectif aujourd'hui de 35. Donc 5 de plus, ça nous permet d'avoir une brigade de terrain supplémentaire.
Et vous avez les moyens de les financer, il n'y a pas de problème?
J'ai été obligée de supprimer d'autres postes. Voilà, d'autres postes qui n'étaient pas pourvus et il faut faire des choix. Par exemple, j'ai supprimé le poste de directeur de la communication. Voilà, il n'était pas pourvu. C'est un poste de catégorie A qui me permet de financer 2 postes de policiers municipaux. Donc oui, j'ai fait des choix. Là aussi, encore une fois, je négocie avec la province sud parce qu'on a une convention de financement avec la province sud sur la sécurité. Bon, je négocie aussi le financement sur ces 5 postes de 2 postes. Donc voilà, on arrive à trouver les financements et ça y est, j'ai réussi à les trouver pour avoir ces 5 postes. Donc pour terminer l'année et après, il va falloir les pérenniser sur les années suivantes. On a vu également le haut commissaire avec lequel on veut avoir des échanges plus réguliers sur la gestion de nos mineurs. Il y a un dispositif qui nous paraît important, c'est le dispositif des mineurs en errance, voilà, qui, à la place d'avoir un couvre-feu pour les mineurs, nous permettrait d'intervenir plus efficacement après 22 heures sur les mineurs qui traînent dans la rue. J'ai vu plusieurs fois les gendarmeries, j'ai visité nos 3 gendarmeries, donc j'inclus dedans le PSIG du Pont des Français pour avoir des contacts directs. On a remis en place des circuits d'information. voilà, on a bien œuvré depuis le début de la mandature. Et je vois demain le général Aouchine avec lequel on a aussi...
Le commandant de la gendarmerie, on doit
voilà, le tenir. Exactement, le commandant de la gendarmerie qui a mis en place un programme pour les jeunes là, sur la commune. C'était la semaine dernière, là, pendant les vacances. 12 jeunes de la commune. Voilà, des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est une semaine d'immersion avec les métiers de la sécurité, de la citoyenneté, etc., qui a bien fonctionné. Donc on a des pistes de travail à mettre en œuvre.
Sans stigmatiser personne, on va dire que Saint-Louis est calme pour l'instant.
C'est vrai.
On n'entend pas trop parler de caillassage, de barrage. Vous y êtes allé déjà dans la tribu de Saint-Louis ?
Le lendemain de mon élection, le lendemain de mon investiture, on est allé avec les adjoints et les élus au marché Nattée, où on a été très très bien accueillis. On a fait tous les stands, on a discuté avec tout le monde, on a bu le café, on a vu le chef Moyatea, tout s'est très bien passé. Voilà, on a échangé, ils doivent revenir vers moi pour travailler sur des projets. Enfin, moi je suis ouverte, s'ils veulent travailler sur des projets de développement pour la tribu. Moi je suis totalement ouverte aux discussions, mais il va falloir qu'ils trouvent eux-mêmes aussi les financements. Tout ne pourra pas venir de la commune. Et je leur ai bien rappelé ma philosophie. Tout le monde sera traité de la même façon. Vous avez des droits, comme tous les autres mondoriens, mais vous avez aussi des devoirs à respecter.
Et en cas de nouvelle tension, en cas de nouveau blocage de la RP1, en cas de nouveau caillassage, quelle sera votre réaction comme maire du Mont-d'Or ?
Bien, écoutez, c'est une voilà, c'est quelque chose qui va certainement arriver. Là, vous dites que tout est calme, mais il y a quand même des incidents qui se produisent à la marge. On doit renforcer évidemment notre police municipale pour qu'il y ait plus de présence, qu'il soit une présence dissuasive. Et il faut également qu'on ait voilà, des meilleures relations avec la gendarmerie. Mais ça va être un énorme défi à relever. Là, on a travaillé, enfin, le haut-commissaire m'a assuré qu'il y aurait des dispositifs particuliers pour les élections provinciales. Voilà, on en a déjà discuté. Les bureaux de vote vont être sécurisés. La période avant les élections, l'élection va être également sécurisée. Mais voilà, pour empêcher les caillassages sur la route, il faut avoir une politique ferme. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut commencer très tôt. Il faut refuser le laxisme. Il faut refuser même la moindre petite insulte, le moindre tag. Il faut agir tout de suite et pas laisser passer.
Mais ça ne dépend pas forcément de vous. Ça dépend plutôt des forces de sécurité elles-mêmes que la gendarmerie, en l'occurrence.
La mairie a des leviers. La mairie peut agir. Déjà, elle peut convoquer les parents. Elle peut mettre en place un volet de sanctions, négocier avec les parents, en alternative à une peine de réparation, par exemple. Elle peut mettre en place des tiges. Ça aussi, on en a discuté avec le haut-commissaire. On en a discuté aussi avec la DPJEJ, qui est très intéressée. Donc, on a des leviers que la mairie peut actionner. Moi, j'avais parlé également de la suppression des aides sociales en cas de récidive, hein, quand les parents laissent faire leurs enfants et que la délinquance se répète. Et c'est tout ça qu'on est en train là d'étudier, de mettre en place des parcours, voilà, en fonction des publics, parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas du tout des délinquants, mais on sent qu'il y a besoin de les accompagner, on sent qu'il y a déjà un petit décrochage scolaire, quel parcours on met en place ? Et puis il y a des primes aux délinquants, donc là aussi, quel parcours on met en place ? Et puis quel parcours on met en place aussi pour les parents ? Voilà, on tient à mettre en place des stages de rappel de ces obligations parentales comme sanction aussi quand les parents sont démissionnaires.
Puis alors, autre moyen de contourner le problème de la RP1, c'est bien sûr le projet du viaduc. Il est toujours d'actualité, mais il va coûter cher, on le sait. À quelle échéance est-ce que vous pensez que vous pourrez le réaliser ? Est-ce que ça fait partie de vos priorités ?
Notre conseil municipal de juin, je ferai voter la création d'une commission consultative de suivi de la construction de cette deuxième route. D'abord pour que tout le monde ait le même niveau d'information, parce que depuis des années qu'on travaille sur ce projet, on a accumulé des études, on en sait un petit peu plus sur les financements qu'il va falloir trouver. La province Sud a déjà chiffré combien va nous coûter l'emprise du viaduc de chaque côté. Donc tout ça, je pense que ça mérite d'être présenté au Mont-Dorien. Donc on va créer cette commission avec des élus et avec la société civile. Et puis moi, je continuerai bien sûr à défendre auprès de l'État, auprès de mes interlocuteurs, que ce soit le Haut-Commissariat. Alors, Madame Durieux a un remplaçant, là, qui vient d'arriver, que j'ai briefé tout de suite, que j'ai été voir dès la semaine dernière, à qui j'ai dit que s'il ne savait pas comment consommer son enveloppe, moi, j'avais un projet tout prêt qui s'appelait le viaduc. Alors, j'étais étonnée, personne ne lui en avait parlé encore, donc je l'ai bien briefé sur le sujet.
Vous allez consommer l'intégralité des crédits, là, avec...
Oui, mais il cherche des projets tout prêts, enfin, prêts à démarrer. Les études sur le viaduc, elles sont terminées, en fait. Il nous reste deux, trois petites choses à faire, là. En septembre, c'est fini. Et là, l'ensemble des études aura été réalisé, il ne manquera plus qu'à. Donc moi, si l'État cherche un projet tout fait, je l'ai. Voilà.
Le message est passé. Plus globalement, quelle est l'ambiance, l'état d'esprit du Mont d'Or ? Est-ce que la commune s'est remise de mai 2024 ? Et est-ce qu'il y a un besoin d'apaisement, de recréer du lien entre les différentes communautés qu'il y a dans votre commune ?
Il y a une volonté, ça c'est certain. Avec les adjoints et les élus, on ouvre une permanence sans rendez-vous tous les lundis, de 15h à 18h. D'ailleurs, je voudrais dire à tous ceux qui sont venus, parce qu'en trois permanences, on a vu plus d'une centaine de personnes, on traite toutes les doléances, mais on ne pensait pas en avoir autant. Donc je préviens les gens que ça va prendre un tout petit peu plus de temps que prévu pour avoir des réponses, étant donné le nombre de personnes. Mais je sens à chaque rendez-vous, évidemment les gens viennent exposer leurs problématiques, mais je sens quand même une volonté de trouver des solutions parce qu'ils ont envie de rester, parce qu'ils ont envie de reconstruire. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me présenter des projets, notamment sur la zone de la coulée. Là j'ai quelqu'un qui est venu me présenter un énorme projet qui pourrait se réaliser sur la zone de la coulée. On voit qu'il y a cette envie, mais que malheureusement, le contexte politique, tout simplement l'absence d'accord, l'instabilité politique, freine encore beaucoup de gens. Et puis on a aussi une partie du secteur économique qui a du mal à repartir. Je prends par exemple le corail Pont des Français, qui n'a pas encore, lui, été détruit même, pour être reconstruit. J'ai le fitness park qui était au centre-ville et qui a été rasé. Et pour l'instant, bon, je comprends qu'il n'y a pas de perspective de reconstruction. Donc oui, on a quand même des chefs d'entreprise qui sont à terre et qui attendent de la stabilité politique.
Et en dehors de la stabilité politique, ou si elle n'arrive pas vraiment, ou si elle prend du temps, la commune peut les aider, peut inciter à la reconstruction. Vous avez des moyens pour relancer ces projets ?
C'est comme pour la sécurité, là où il y a une volonté, il y a un chemin. On n'arrête pas de me dire, mais ce n'est pas de la compétence de la commune. Bah si, on trouve des chemins, même pour le développement économique. On fera voter en juin, par exemple, la suppression de la taxe communale d'aménagement, comme on s'y était engagé. Donc la taxe communale d'aménagement, quand un chef d'entreprise veut construire un dock à 20 millions, il économisera 800 000 francs de taxes. C'est quand même pas mal. Ça lui permettra d'acheter 2-3 engins à côté. Donc on va faire cette suppression de TCA pour les entreprises et pour les particuliers. On va également baisser les redevances de tous les loyers, enfin de tous les locaux communaux dont on dispose, que ce soit les emplacements au marché, que ce soit les emplacements en bord de route, les salles, etc. C'est des petites choses, là, pour l'instant, pour commencer, mais c'est pour donner un signal, pour donner un petit signal positif. On va faire des choses, on va s'organiser. On a deux zones industrielles à développer où là aussi on va travailler sur le prix des terrains, on va travailler aussi sur un espèce de package pour monter les dossiers parce que vous savez c'est long les permis de construire, etc. Donc on va essayer de faciliter toutes ces démarches administratives pour faire revenir les entreprises.
Et dans le pacte de refondation de l'État, il y a des éléments qui peuvent vous aider ? Il y a des projets du Mont d'Or qui ont été retenus par l'État ou pas encore ?
Le seul projet qui a été retenu de la première vague portée par la précédente mandature, c'est la caserne de la coulée.
Pas de chance, c'est celui dont vous ne vouliez pas.
Mais au final, on va atteindre le même objectif parce que finalement, l'État va le financer à 100%. Moi, ce qui m'embêtait, c'était qu'on mettait une partie du financement sur un outil qui se situe exactement à côté de celui qui existe déjà et qu'on n'apporte pas une qualité de service au Mont-Dorien du Nord. Voilà, il y avait un problème de délai d'intervention. Mais là, la caserne va être financée à 100%, ce qui me permet de récupérer les financements qui étaient prévus au départ de la commune pour les réfléchir sur une annexe des pompiers, comme on le souhaitait au départ et comme on l'a porté dans notre programme, qui sera située au centre-ville.
Donc finalement, tout finit bien. Vous aurez les deux. Et...
Écoutez, tout finit bien. Et j'ai même proposé à l'État de lui mettre à disposition la caserne actuelle. Donc il va nous rester un peu sur les bras, parce que ça aussi, c'était une préoccupation. Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment-là, qui va nous coûter de l'argent dans la sécurisation, dans la destruction, que jamais personne ne va racheter? Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là qui va nous coûter cher? Bon, là, je l'ai proposé à l'État pour y installer une antenne du RSMA pour ses pompiers, parce qu'ils ont une antenne RSMA pompiers. Et là, avec une caserne toute neuve à côté, ça pourrait permettre d'avoir quelques jeunes du RSMA en formation dans cette caserne où il y a déjà des dortoirs, des équipements, et pouvoir ensuite se former sur la caserne toute neuve.
En attendant l'implantation du RSMA sur la commune, alors on sait qu'ils cherchent... une commune de l'agglo pour l'installer, on sait que Dimbéa aussi est candidate. Est-ce que c'est vous qui allez l'avoir ou est-ce que c'est la commune concurrente et voisine?
Alors, Madame le maire de Dimbéa, si tu écoutes cette interview, sache que je ne me laisserai pas faire. Ça va être un combat à la vie ou à la mort.
Quels vont être les arguments qui peuvent peser dans une commune ou dans l'autre?
Alors, nous...
Vous avez déjà des militaires chez vous.
Alors, au Mont d'Or, il y a un enjeu politique qui est très clair. Voilà, il est très clair. Dimbéa n'a pas besoin du RSMA pour que sa zone, j'ai cru comprendre que c'était vers la zone économique le projet, ils n'ont pas besoin de ça pour être attractifs. D'ailleurs, ils sont deuxième commune derrière Nouméa. Nous, clairement, on a besoin de ce projet-là pour redonner de l'attractivité au sud du Mont d'Or, parce que le lieu qui a été choisi là pour l'instant, c'est au sud du Mont d'Or. On a besoin de ça, la commune. Voilà, on a besoin que l'État redonne un signal positif aux gens en disant, ben voyez, moi, je vais venir installer au sud du Mont d'Or une antenne du RSMA. Et tant pis le problème de la route. Moi, je reviens, j'investis, je vous amène du monde. Et je pense que, enfin, et j'espère que le haut-commissaire est sensible à cet argument-là.
Ce serait un signe fort, en fait, pour vous.
Ça serait un signe fort envoyé au Mont-Dorien, voilà, parce que ça va forcément créer de l'économie, ça va forcément recréer de l'attractivité. En plus, je pense que financièrement, ils vont s'y retrouver parce que l'emplacement qui a été ciblé pour l'instant est, je pense, nettement plus abordable que celui de Dimbéa. Donc, on leur fait faire des économies. Je propose de leur mettre à disposition cette caserne là, qu'on va avoir sur les bras pour en faire quelque chose aussi, un lieu de formation pour des jeunes du RSMA. Je travaille également avec les bailleurs sociaux pour voir si on peut libérer un immeuble dans la commune pour pouvoir loger les personnels qui vont encadrer le RSMA. Donc vraiment, là, j'essaye de mettre tous les atouts de notre côté et j'espère que je serai plus convaincante que le maire de Dimbéa.
La réponse sera donnée quand, en fait?
Je crois que prochainement, l'État va arrêter deux positions, deux lieux et qu'on n'aura pas la réponse tout de suite, par contre, sur le choix définitif.
Le suspense va rester intense.
Le combat va être intense.
Vous parliez de deux priorités au début de cet entretien. Lesquelles et dans quel ordre vous allez les mettre en œuvre? Et est-ce que vous avez le temps de le faire en 100 jours, effectivement?
Je pense qu'on aura le temps d'en faire 75% en 100 jours. Pourquoi pas 100%? Tout simplement à cause des élections provinciales qui vont nous demander, nous, en tant que nouvel arrivant dans la commune, une très grosse organisation pour ces élections. Et puis, bon, il y a toujours aussi cette période de campagne où tu peux pas faire des annonces comme ça. Mais là, la première mesure qu'on a mise en place, c'est donc l'ouverture de notre permanence sans rendez-vous, qui est très appréciée des Mont-Doriens. La deuxième mesure, c'est le recrutement là, de 5 policiers. En tout cas, on a lancé les AVP. Il y a la procédure administrative maintenant qui va suivre. Et puis, on a le projet Click and Move. On va rajouter 5000 francs au projet Click and Move de la province sud, qui est déjà de 15000 francs pour les jeunes de 11 à 18 ans. Comme ça, nos jeunes Mont-Doriens pourront avoir 20000 francs au lieu des 15000 à dépenser dans la commune. Ça va être fait aussi dès le mois de juin. Et on travaille sur la TCA, je vous l'ai dit, suppression de la TCA. Ça aussi, ça sera prêt pour le mois de juin. La baisse des redevances des différents loyers de la commune, ça aussi, ça sera prêt pour juin. Après, on a des dispositifs qui vont être un petit peu plus longs à mettre en place. C'est tout ce qui touche en fait au toilettage de la réglementation pour, par exemple, renforcer les sanctions en cas de délinquance des mineurs, Ça aussi, on avait dit tolérance zéro, c'est une de nos mesures. Tout ce qui touche aussi à toutes les nuisances sonores qu'on est en train de retoiletter, remettre en place des circuits. Voilà, ça risque d'être un petit peu plus long. Mais je pense honnêtement que début juillet, je pourrais annoncer que 75% des mesures ont été validées et mises en place.
Du travail en perspective.
Oui.
Un mot de politique quand même pour terminer. En tant que maire, quelle est votre vision de l'avenir institutionnel ? Vous soutenez Bougival, vous ne soutenez pas Bougival ? On n'a pas trop parlé finalement pendant cette campagne électorale, même si certains en avaient fait un référendum pour ou contre. Vous voyez les choses comment ?
La même ligne que j'ai défendue pendant les municipales, parce que si, moi je pense qu'on en a quand même beaucoup parlé pendant les municipales et je pense que ça a beaucoup influencé le choix des électeurs aussi. C'était moitié-moitié, moitié la commune et moitié la ligne politique du candidat. Donc moi, je ne sors pas de cette ligne. C'est un avenir institutionnel dans la France avec des efforts déployés pour trouver un accord, pour avoir derrière une projection, pour permettre voilà, aux Calédoniens de projeter dans leur avenir. Donc moi, je vois une campagne fort et unie, des loyalistes forts et unis, et je m'engagerai en tout cas pleinement dans cette campagne, comme je l'ai fait pour la mienne, parce qu'on est parti collectivement au municipal, on partira collectivement au provincial.
Alors, sous quelle géométrie, sous quelle géographie ? Parce que vous n'êtes pas parti unis, justement, de la même manière à Dimbéa, par exemple, et au Mont-d'Or, pour reprendre les deux communes qui, j'ai cru comprendre, vont être un petit peu concurrentes, là, l'une et l'autre. Est-ce que vous pensez qu'une union globale des partisans de la France va être possible ? On a vu les tensions ces derniers jours. Est-ce que vous souhaitez l'union la plus large possible ? Et est-ce que vous pensez qu'elle va être possible ? Vous qui êtes membre de Génération NC, pour ceux qui l'ignoreraient.
Au sein des loyalistes, où il y a Génération, les Républicains calédoniens et le mouvement populaire calédonien de Gilles Brial, l'union est totale. On est parti ensemble au municipal, on continuera de le faire au provincial. Nous avons, nous, Génération, souhaité d'ailleurs que Sonia Backès puisse reprendre les rênes de la province sud après cette élection et on la soutient dans ce sens-là. Mais bien sûr qu'on aimerait que l'union soit plus large et que le rassemblement puisse participer à nos côtés à cette campagne, parce que c'est dans l'intérêt des Calédoniens. Avec une élection à un tour à la proportionnelle, plus on part unis et plus on a de chances d'obtenir un maximum de sièges au provincial. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on veut une union large ? C'est parce que c'est mettre toutes nos chances de notre côté pour défendre les Calédoniens et moi, les Mondoriens.
On en parlait tout à l'heure justement, est-ce que vous-même vous serez candidate, non pas pour tirer la liste ou alors annoncez-le nous si c'est le cas, mais pour être candidate sur la liste des loyalistes, des républicains, la liste globale qui pourrait être présentée en province sud ?
Alors ça, c'est toujours la question, c'est qui tire la liste et c'est qui est sur la liste.
On est à 2 mois de l'échéance, donc c'est normal qu'on commence à se poser les questions.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous l'ai dit, moi, je m'engagerai pour les Mondoriens. Je vois bien aujourd'hui qu'être à la province sud, être au congrès, c'est vraiment, vraiment un atout pour la commune. C'est ce qui me permet d'obtenir des financements. C'est ce qui me permet au congrès, par exemple, de m'opposer sur des sujets quand je considère que ça va avoir un impact sur la commune. Et puis après, au-delà du Mont d'Or, j'ai aussi mes convictions, mes valeurs. Et si j'ai envie voilà, de m'investir pour que les loyalistes gagnent cette élection, bien sûr, parce que c'est ça que je veux pour l'avenir du pays. Donc j'ai d'abord ma première raison, c'est le Mont d'Or, défendre le Mont d'Or, mais c'est aussi voilà, défendre mes convictions au travers des loyalistes. Donc je m'engagerai pleinement dans la campagne, c'est certain. Après, il y a toujours des discussions en cours. Les discussions, là, elles sont toujours en cours sur la liste. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'on soutiendra Sonia Backès pour qu'elle soit réélue à la tête de la province sud.
Vous êtes Génération NC, vous avez été membre de Calédonie Ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche, de l'initiative de Philippe Dunoyer qui a annoncé hier le lancement d'un nouveau mouvement politique et son départ ou sa prise de distance avec Calédonie Ensemble ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh bien, en fait, j'ai pas compris les raisons pour lesquelles ils quittent Calédonie Ensemble. J'ai pas compris quelle est la ligne du nouveau mouvement politique qu'il veut créer. Quelles sont les valeurs? Où est-ce qu'il veut aller? Est-ce qu'il y a vraiment une divergence de ligne par rapport à Calédonie Ensemble? Ou est-ce que c'est juste un départ parce que il y a des bisbis personnels? Bon, ce matin, j'ai écouté l'interview et j'ai vu que vous aussi, vous aviez eu du mal à trouver des réponses. Donc, pour l'instant, c'est juste une annonce de départ, mais qui me semble bien vide. Voilà, il n'y a pas les valeurs, il n'y a pas les personnes, il n'y a pas le nom du parti, il n'y a pas les mesures qui vont être défendues, puisque par contre, ça, il a bien dit qu'il serait présent au provincial. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu coquille vide. Donc, bon.
En tout cas, on est bien parti. Enfin, la campagne provinciale semble être déjà lancée. C'est aussi votre sentiment ?
Ben là, on a vu émerger pas mal de nouveaux mouvements ou en tout cas des intentions de se présenter au provincial. Moi, j'aimerais dire quand même aux Calédoniens que pour passer la barre en province sud, pour avoir un élu, il faut faire minimum 5500 voix. Voilà. Donc, toutes les petites listes qui se présentent, et pour qui peut-être on serait tenté de voter parce qu'on n'aime pas un tel ou un tel ou on a envie de donner sa chance, en fait il n'y a qu'un seul tour. Donc tout ça c'est des voix qu'on perd. Une liste qui fait 2000 voix, elle n'aura pas d'élu ensuite à la province sud, donc c'est 2000 voix de perdues. Et dans le contexte dans lequel on est, il faut quand même bien réfléchir parce qu'après ça va avoir des conséquences. À la province sud, il y a 40 élus. Et la présidente, le président de la province sud est élu ensuite par les 40 élus. Donc il faut avoir 21 élus pour pouvoir prendre la présidence de la province sud. Donc il ne faut pas qu'une voix manque à l'appel. Donc il faut bien réfléchir sur cette élection qui est une élection, encore une fois, à un tour et pas éparpiller les voix.
Voilà pour ces rappels de chiffres qui sont importants. Nina Jullier, maire du Mont-d'Or, merci d'accepter notre invitation.
Merci Elisabeth et bonne journée à tous les Calédoniens. Et un petit clin d'œil à ma collègue de Dame Béa.
Qui était dans ce studio la semaine dernière. La fin de ce magazine Transparence.